Dans l'actualité de ce samedi 27 janvier 2018, des milliers de personnes ont défilé hier dans les grandes villes d'Australie, protestant contre les célébrations de l'Australia Day, le 26 janvier, rappelant une date douloureuse pour les communautés aborigènes. Le président Donald Trump promet l'amitié et la coopération des États-Unis lors d'un discours au Forum économique mondial de Davos, destiné à rassurer les partenaires commerciaux et diplomatiques des États-Unis. En France maintenant, la Seine atteindra son pic de crue demain, mais ne devrait pas dépasser celui de 2016. Et puis Jawad Ben Daoud, surnommé le logeur de Daesh, risque 6 ans de prison. Sport, tennis, Roger Federer à la portée d'un 20e titre du Grand Chelem. Des dizaines de milliers d'Australiens ont manifesté hier dans les rues des plus grandes villes d'Australie, du pays, pour le changement de date de l'Australia Day. Adam Goods et Michael O'Loughlin, joueurs aborigènes et emblématiques du football australien, faisaient partie des manifestants qui ont marché depuis le quartier de Redfern à Sydney jusqu'à Victoria Park. Ken Canning, un militant aborigène, a déclaré à NITV News qu'il avait du mal à comprendre pourquoi le 26 janvier est toujours aussi respecté.
When you get a dozen ships sailing into your harbour, invading your land, coming ashore without permission, and you know, within 2 years, you lose in excess of 70% around of people in and around the Sydney region. That's invasion. That's warfare. It's nothing more, and you can't call it a peaceful day. And I don't think it's a day that people should be celebrating because it marks a day that is sadness. It's great sadness for our peoples because the invasion spread right across the nation.
Dans le CBD de Melbourne, des manifestants ont demandé que la journée nationale soit annulée ou reportée, en commençant par protester devant le Parlement. Des rassemblements à Hobart et Perth ont aussi suscité des appels en faveur du changement de date. Et à Canberra, des manifestants aborigènes ont défilé jusqu'à l'historique Aboriginal Tent Embassy, puis s'en est suivi une cérémonie traditionnelle devant l'Assemblée. Un récent sondage de l'Australia Institute a montré qu'un peu moins de la moitié des Australiens voulaient une journée nationale à une date qui ne soit pas offensante pour les Australiens natifs, dont beaucoup qualifient le 26 janvier de jour de l'invasion. Une autre manière de célébrer ce jour, des cérémonies de citoyenneté ont eu lieu à travers le pays. Des milliers de migrants de près de 130 pays différents sont devenus citoyens. Anita Stanley et Vijay Kumarti Yagarnranja, mari et femme, viennent de déménager avec leur famille dans la petite ville de Wagga Wagga en Nouvelle-Galles du Sud et ont hâte de commencer leur nouvelle vie.
This is one of the dream come true opportunity for us because having PR was a good opportunity, but being a citizen means a lot to us, and being a part of a country which has got a great culture and great tradition is also a good thing.
La marine australienne a aidé à saisir près d'une tonne d'héroïne d'une valeur de 275 millions de dollars dans l'océan Indien. HMAS Warramunga, une frégate de la marine australienne, a intercepté un bateau transportant 915 kilos de drogue après que le navire ait été repéré par un avion de la Royal New Zealand Air Force. L'amiral Jamie Hatcher affirme que 6 navires transportant de la drogue ont été interceptés depuis novembre et dit que l'opération met en évidence le rôle important joué par les pays partenaires. L'Australian Defence Force affirme que les drogues seront éliminées en mer. Le président Donald Trump a prévenu que les États-Unis ne feraient plus d'yeux sur ce qu'il qualifie de pratiques commerciales déloyales. Monsieur Trump est devenu le premier président en exercice depuis 18 ans à s'adresser au Forum économique mondial de Davos, clôturant le sommet par un discours dans lequel il déclarait que les États-Unis étaient ouvertes aux affaires.
There has never been a better time to hire, to build, to invest and to grow in the United States. America is open for business and we are competitive once again.
Mais Monsieur Trump a également exigé une application plus stricte des règles commerciales, accusant des pays sans les identifier de pratiques déloyales, notamment de voler la propriété intellectuelle et de fournir des aides d'État à l'industrie. L'Union européenne a condamné le Venezuela, excusez-moi, pour l'expulsion de l'ambassadeur d'Espagne. L'Union a demandé que la décision soit infirmée et que les relations diplomatiques restent en place. La porte-parole de la Commission européenne, Catherine Rey, a déclaré que le renvoi de l'ambassadeur d'Espagne était décevant.
We heard about the decision and the EU firmly condemns the decision by the Venezuelan authorities to declare the ambassador of Spain in Caracas as persona non grata. We express our full solidarity with Spain and we call for the decision to be reverted as it goes against the need to keep diplomatic channels open.
De son côté, le président français Emmanuel Macron souhaite que l'Union européenne accroisse ses sanctions contre le régime vénézuélien. Il souhaite que d'autres pays plus proches du Venezuela se mobilisent à leur tour pour accroître la pression sur Caracas. Il a dénoncé, je cite, « une dérive autoritaire inacceptable ». Les Nations Unies affirment qu'au moins 30 réfugiés et migrants africains se sont noyés au large des côtes du Yémen cette semaine dans un bateau exploité par des trafiquants. Selon le porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations, Joël Milman, les survivants signalent que le bateau surpeuplé transportait plus de 100 Éthiopiens et 51 Somaliens.
The vessel is believed to have been operated by unscrupulous smugglers who were attempting to take refugees and migrants to Djibouti while also trying to extort more money from these refugees and migrants. The boat capsized amid reports of gunfire being used against the passengers.
Monsieur Milman dit que 87 000 personnes ont risqué leur vie pour atteindre le Yémen l'année dernière. En France maintenant, les regards sont tournés vers la Seine, sortie de son lit depuis plusieurs jours. La crue, qui touche plusieurs régions et tout particulièrement l'Île-de-France, atteindra son pic dimanche. En attendant, il y a ceux qui scrutent le zouave du pont de l'Alma à Paris et ceux qui s'interrogent comment. Comment empêcher les inondations qui restent en France, le premier risque naturel. Écoutez la réponse de Stéphanie Bideau, jointe par Anna Piekarek pour RFI. Elle dirige le Centre européen de prévention du risque d'inondation.
Pour prévenir, il faut bien connaître les phénomènes. Avoir conscience que la France est un territoire très inondable parce qu'il a une densité hydrographique importante et que les inondations sont des phénomènes naturels qui relèvent d'un fonctionnement normal des écosystèmes et ce sont des phénomènes qui ne peuvent pas être systématiquement empêchés ni même limités. Mais il y a des choses qui peuvent aggraver, c'est en particulier sur le phénomène de ruissellement. On sait très bien que c'est parce que les sols sont beaucoup plus artificialisés, on a bétonné nos villes et donc l'eau n'arrive plus effectivement à s'engager où elle devait s'engager, donc elle trouve nécessairement des chemins et ça aggrave ces phénomènes de ruissellement. Donc bien sûr que certaines pratiques humaines peuvent aggraver, mais je pense qu'il ne faut pas focaliser en fait et à chercher systématiquement des causes sur ces inondations. Il faut surtout se souvenir quand même que concernant en particulier le débordement de cours d'eau, c'est un phénomène naturel.
Un phénomène naturel. Le pic de la Seine devrait toutefois être inférieur à celui de 2016. En bref, maintenant, vers une sortie de crise dans les prisons, après près de 2 semaines de blocage, le syndicat majoritaire des surveillants et le gouvernement ont trouvé un terrain d'entente. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Justice hier. Le texte porte sur l'amélioration des conditions de travail des gardiens, notamment leur sécurité. Il prévoit aussi d'accélérer les recrutements. Et puis lui risque 6 ans de prison pour recel de malfaiteurs terroristes, Jawad Ben Daoud, celui qu'on surnomme le logeur de Daesh, l'homme qui avait fourni à 2 des auteurs des attentats du 13 novembre 2015 en France, a signé un nouveau coup d'éclat au 3e jour de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris, un procès qui a dû être suspendu à cause des frasques du prévenu. Franck Alexandre était sur place pour RFI.
Moins d'une heure après la reprise de l'audience, Jawad Ben Daoud a eu un nouvel accès de colère. Un de plus, un avocat des parties civiles l'interrogeait sur son emploi du temps après le 13 novembre. Le prévenu a pensé qu'on l'assimilait au groupe terroriste. Alors, il est sorti de ses gonds. Voleur de mobilette, avocat de merde, je vais venir à votre cabinet, éructe-t-il. La présidente Isabelle Prévot-Desprez suspend l'audience. À la reprise, tous font des efforts surhumains pour ne pas le froisser. passé. Mais interroger Jawad Mendaoud est toujours périlleux. Il ne répond jamais aux questions. Il se complaît dans son rôle de délinquant, de marchand de sommeil. En quoi c'est pas normal de louer un appartement, de se faire un billet, dit-il. Personne ne m'a rien dit. Il y a des gens à ma place. Il se serait coupé les testicules. Il les aurait mis dans une barquette en disant « Tiens, voilà mes testicules. Je crois devenir fou. » Jawad Mendaoud se prend pour une victime. « J'aurais préféré être dans la case de celui qui dénonce les terroristes plutôt qu'être dans la case de celui qui est dans la merde », confesse-t-il enfin dans un rare état de lucidité.
Et l'actualité du sport maintenant. Nous sommes en direct avec notre collègue Christophe Mallet, avec qui on parle tout de suite de l'Open d'Australie. Bonjour Christophe.
Bonjour Johanna, bonjour à tous.
Alors, victoire de Federer, finale des femmes ce soir. Est-ce que vous pouvez nous parler des grands événements récents de cet Open d'Australie ?